vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec la technique Flo des Cailloux, la fidèle Flo des Cailloux, qui nous réserve quelques surprises pour les pages musicales. Nous avons la grande joie d'accueillir Thomas Morales pour Monsieur Nostalgie, son nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Thomas Morales, Monsieur Nostalgie, ça fait immédiatement penser à Monsieur Jadis d'Antoine Blondin.
Oui, il y a une filiation. Vous savez que j'aime beaucoup l'œuvre d'Antoine Blondin et des hussards en général, mais particulièrement celle d'Antoine Blondin qui me séduit par son écriture, ce vague à l'âme. C'est un de mes inspirateurs, un de mes maîtres en écriture, puis aussi une écriture, je dirais, très française, très académique également. Donc je me mets humblement, modestement, dans les pas de Blondin et d'autres, évidemment.
Ouais, voilà. Moi je pensais plutôt au chemin buissonnier,
bien sûr.
Au chemin de traverse, comme on dit. Alors je voudrais connaître un peu votre, Thomas Morales, votre définition de la nostalgie. Alors selon l'étymologie grecque, ça viendrait du terme grec ancien notos, qui signifie retour, et algos, qui signifie la douleur, soit le mal du pays. Est-ce que finalement ce livre, Monsieur Nostalgie, qui est un recueil de textes, est-ce que c'est pas un arrière-pays, une sorte de cartographie de l'intime?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est un très beau terme, la cartographie de l'intime. Alors moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une nostalgie. Il y a plusieurs types de nostalgie. Moi, je pratique une nostalgie rieuse, qui n'est pas une nostalgie neurasthénique.
Ni pleurnicheuse.
Ni pleurnicheuse. Vous savez que je déteste les pleurnichards en littérature et dans les arts en général. Je dirais que ma nostalgie, c'est plutôt un état d'esprit. Mmh. Voilà. C'est un état d'esprit, d'abord d'apprécier les belles choses, ce qui a été beau dans le passé. Les œuvres littéraires, les chansons, des figures populaires. Être nostalgique, à mon sens, ce n'est pas rayer d'un trait de plume les 30 ou 40 dernières années. Donc moi, mon travail consiste généralement à s'intéresser aux 30 glorieuses, on va dire, l'après-guerre jusqu'aux années 80. Et on a souvent l'habitude de ces dernières années de critiquer vertement cette période-là, de lui trouver tous les maux de la terre. Et moi, à ma façon, mais comme je dis dès la préface, j'essaye pas du tout d'instrumentaliser le lecteur, mais de dire que cette période-là, elle n'était pas si désagréable, et j'essaye de le prouver avec des exemples précis. Et c'est une nostalgie admirative aussi, elle n'est pas revancharde. Ce sont souvent, oui, des actes d'admiration pour des acteurs, des écrivains ou même des objets.
C'est une nostalgie qui concerne les années d'avant votre naissance, puisque vous êtes né en 1974. Ça me fait penser à la démarche toute proportion gardée avec Patrick Modiano, qui lui recherche ce qui s'est passé avant 1945. Oui, donc l'avant son arrivée sur Terre.
On fantasme toujours des périodes qu'on n'a pas connues. Moi, je suis vraiment un enfant de la fin des Trente Glorieuses, de la crise du pétrole, et je me suis d'une certaine façon réfugié, dans ces années 60-70. Je ne les ai pas idéalisées non plus, parce que quand on prononce le mot nostalgique, on peut passer pour un passéiste. C'est pas totalement mon cas. Moi, j'ai trouvé des choses à admirer dans cette période avant ma naissance.
Alors, je vous parlais de cartographie. Une cartographie, il y a des cartes, il y a une échelle, qui est très important, l'échelle. Il y a des chemins, des itinéraires bis. Je dirais presque que votre livre est un itinéraire bis. Alors, sur la nostalgie, voilà ce que Camus disait. La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Ce qu'il disait, lui, Grand Corps Malade, par exemple, la nostalgie, c'est la fiancée des bons souvenirs et pire des proches. La nostalgie, c'est comme les coups de soleil. Ça ne fait pas mal pendant, ça fait mal le soir. Donc, vous voyez, il y a trois regards sur la nostalgie, avec, évidemment, Simone Signoret, ce fameux titre, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Est-ce que vous y avez pensé d'ailleurs?
Quand
vous avez choisi le titre de votre livre, Thomas Morales?
Oui, il y avait des choses, on a pensé à quelques titres, mais rapidement, pour dire la vérité, rapidement, Monsieur Nostalgie s'est imposé comme le titre. Mais il y avait, comme vous le dites en début d'émission, on voulait faire le parallèle avec l'œuvre de Blondin et l'idée d'un Monsieur Jadis de retour. Voilà, Monsieur Jadis est de retour. C'était un titre qui m'a trotté dans la tête. Oui, la nostalgie. Je dirais que elle m'est essentielle. Voilà, essentielle pour vivre. Voilà, simplement, elle a nourri mon imaginaire, mais elle a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je réfute totalement la modernité. Bien évidemment, je suis ancré dans la modernité. Comment faire autrement, hein? Je suis embarqué dans cette globalisation comme tant d'entre nous. Donc, je ne peux pas m'y échapper. Alors, c'est à la fois un refuge un peu douillet. Voilà, on est
cocooning.
Oui, bien sûr, on est à l'abri, mais est-ce un crime? Est-ce un crime de vouloir se remémorer nos belles années? Alors, je mets « belles années » entre guillemets, parce que pour certains, quand on leur parle des années 60 ou 70, ils vont dire « mais c'est des années catastrophiques, des années de, je sais pas, d'injustice sociale, de censure. » Alors, évidemment, on peut toujours trouver dans ces périodes-là, à chaque période, il y a des époques dramatiques. Moi, j'essaie justement, contrairement, c'est pour ça que c'est pas du tout pleurnichard, essayer de relever dans cette période-là des choses qui sont passées un peu qui ont disparu, voilà. Je suis étonné, moi qui aime beaucoup la littérature, que certains écrivains aient, par exemple, soient sortis complètement des rayons de la circulation. On en parlera peut-être, mais de grands écrivains qui ont été primés, de belles plumes qui, voilà, 20 ans ou 30 ans après leur disparition, n'existent même plus. Voilà, on n'arrive même plus à trouver. Alors c'est très étonnant. Et puis, il faut l'avouer, les arts, parce que c'est quand même essentiellement des chroniques culturelles. Je dirais que dans les années 60, 70 jusqu'aux années 80, il y a une certaine exigence. Voilà. Exigence que je retrouve pas réellement dans les productions actuelles. Voilà. On est quand même assez étonné et surpris de la qualité. La qualité des livres, la qualité des textes, des chansons, des paroles, voilà. Il y a quelque chose quand même de relativement structuré qui s'est effiloché au fil des années.
Mais vous avez un côté vintage, ça on peut dire. Mais ouais. Est-ce que c'est pas aussi votre regard a posteriori qui vous donne l'illusion que c'était mieux avant? Parce que c'était pas forcément mieux, c'était peut-être plus joyeux, parce que maintenant c'est vrai qu'on est dans la sinistrose, on est dans un...
Alors oui, on peut. Alors, c'est pour ça que je donne des exemples. Voilà. Ouais. Je pose des exemples précisément. Voilà, dans des domaines qui n'ont rien à voir. Voilà, si je mets en exergue un modèle de voiture, si je dis c'est formidable. J'essaye d'expliquer pourquoi c'était formidable et je pense que c'est pas des arguments qui sont comme ça en l'air. Il y a quand même c'est raisonné, voilà, hein, c'est raisonné. Même si
il y a l'effet rétroviseur.
Oui, je regarde toujours en arrière.
Eh ben voilà, effectivement, vous conduisez en regardant le rétroviseur.
Je regarde toujours en arrière. Mais quand je regarde en arrière, je dis, admirez ça. Voilà, finalement, cette voiture-là, mais vous vous rendez compte, c'était formidable. Voilà, une voiture fabriquée en France avec...
Sur la couverture de votre livre, il y a la fameuse 4L.
Oui.
Alors, il y en a qui ont connu la 2 chevaux.
Oui. Hein, les deux concurrentes.
C'est vrai que c'est une certaine époque. La Méhari aussi, oui. D'ailleurs. Bon, voilà. Et on a tout de suite une 4L. On voit dans une sorte de champ. Ça évoque
dans
la campagne. Ça évoque l'aventure aussi. Ça évoque l'art du peu.
Est-ce que aussi, bien sûr. Et puis, une certaine insouciance. Voilà. Parce que ce qui caractérise ces années-là, c'est une certaine insouciance et peut-être un espoir. L'espoir, je vais aller loin, d'un monde meilleur. Toutes ces utopies-là ont été un peu ensevelies face à cette mondialisation. Et la 4L l'incarne. C'est pourtant pas grand-chose, c'est un objet de ferraille, hein, 4 pneus, 4 roues. Alors j'aurais pu choisir la 2 chevaux.
Ah bah oui. Hein,
j'aurais pu. Et on pourrait parler. Très nostalgiquement de la 2 chevaux, mais j'ai choisi la 4L parce qu'elle était peut-être plus populaire. C'est bizarre parce que la 2 chevaux s'est vendue à des millions d'exemplaires, mais il y avait quelque chose de plus populaire dans la 4L. Et c'est aussi un des traits de mon travail. J'essaie toujours de remettre en lumière des choses populaires et de la vérité, la véracité des choses populaires qui a un peu disparu aussi, dire voilà comme c'était beau et tout le monde y avait quasiment accès parce que la 4L était accessible à une large partie de la population.
Oui,
quelque chose de beau presque de bon marché, d'utile, et qui crée aussi de l'imaginaire, de l'aventure. C'est rare de réunir tout ça dans une voiture, dans une bagnole, comme certains les appellent.
Il y a le musée des arts populaires, ça vous devez aimer.
Oui.
Hein. La 4L fut cet objet populaire, trésor national, aussi désiré qu'émancipateur, simple et innovant, pratique et non dépourvu d'un charme rustique, ami des jeunes et des vieux, aussi à l'aise en ville qu'à la campagne, qui provoque plus de 60 ans après son lancement le sourire, témoin des temps heureux et d'une croyance en une France, je pense que c'est la suite. En les Français, voilà. Alors après, vous parlez de la voiture Blue Jean, ça c'est autre chose. Ouais. Hein. Mais c'est vrai que, bon, la 4L, bon, c'est la voiture... Je parlais de l'art du peu, parce que c'est un peu le principe de la chronique littéraire. Ouais. Et votre livre est aussi, Thomas Morales, une interrogation sur l'écriture, ouais, sur les différentes vitesses de l'écriture.
Bien sûr. Alors, c'est vrai que je ne me considère pas, évidemment pas comme un romancier, ni comme un essayiste. Mm-hmm. C'est un genre particulier. Je dis souvent, c'est un genre hybride, la chronique. Alors, je suis un défenseur. On s'est déjà rencontré dans d'autres émissions.
Oui,
vous savez mon attirance pour la chronique. Je pense que c'est un art noble. Hein, c'était les arts mineurs et les arts majeurs de la chanson. Mais je pense que elle est pareil, un peu sous-estimée, la chronique. Et elle est, pour un auteur, à mon avis, l'essence même, voilà, de son écriture. C'est-à-dire, c'est la substantifique moelle. Voilà, il y a le jus de l'auteur et de son style. D'abord parce que le temps, le format impose. Ce sont des chroniques qui font de 3-4 pages, donc quelques 2-3 feuillets, hein, 3-4 feuillets grand maximum. Et donc on est obligé, en peu de lignes, d'exprimer le plus clairement possible une idée, et j'y ajoute peut-être aussi le plus poétiquement possible. Parce que j'ai souvent réfléchi pourquoi j'étais attiré à la chronique. Je vais vous dire, la chronique... C'est peut-être, ça va peut-être vous étonner, mais c'est pour moi la dernière étape avant plus d'abstraction, c'est-à-dire avant la poésie. Voilà. Mmh. On va réduire au maximum, et j'aime en plus un style rythmé, voilà, il y a quand même un tempo particulier, quelque chose qui accroche le lecteur, hein, mais qui l'accroche par une sonorité, par l'utilisation d'adjectifs. Et si j'osais, si j'étais plus courageux, si j'étais un auteur plus affirmé, un écrivain croyant réellement en mon talent, j'irais plus loin, j'irais encore dans l'abstraction, c'est-à-dire peut-être dans la poésie. Mmh. Et donc, c'est un ouvrage un petit peu particulier. Et en même temps, il y a quand même évidemment un fil conducteur, et je dis quelque chose de l'époque actuelle et du passé.
Oui, alors il y a avec mais, c'est-à-dire cette fois-ci, d'habitude, vous faites des recueils de chroniques avec des personnages,
oui,
avec des personnalités plus exactement. Là, c'est un peu votre journal intime, c'est-à-dire,
oui,
mes humeurs, mon pari. Enfin,
oui, j'essaye d'incarner, voilà, donc j'utilise le jeu, hein, c'est très personnel. Alors. J'essaie de ponctuer chaque papier d'une expérience totalement personnelle, ce qui est un peu nouveau pour moi dans les différents livres. Je vais un peu plus loin. Voilà,
oui,
j'ouvre un petit peu plus. Je suis plutôt un écrivain pudique, hein, donc je reste un peu en hauteur. Là, je me lance un peu et j'ose entre-ouvrir la porte d'intime. Voilà, il y a un peu d'intime, mais c'est ce qui est normal, c'est que l'intime et ces grandes figures populaires, tout ça se mélange. Voilà.
Alors, sur le style, l'entrée est ouverte à tous. J'ai la passion de la langue, du style incisif, du French flair et de la geste flamboyante. Alors, c'est vrai que vous vous interrogez beaucoup sur l'écriture, on parlait de musique tout à l'heure, ça pourrait être des petites sonates d'ailleurs à chaque fois, ces textes. Et vous parlez d'ailleurs de précis de nostalgie. Ce précis de nostalgie se veut gourmand, parfois engagé, souvent amusé, et il dessine une France qui nous manque cruellement. Donc, précis de nostalgie, comme un guide du routard finalement.
Oui, il y a quelque chose, c'est un chemin, voilà, j'invite le lecteur, voilà, à me suivre. Alors, il faut qu'il accepte, hein, de me suivre dans différents domaines. Je ne vais pas lui parler, je ne sais pas, uniquement du cinéma des années 70. Voilà, il va être sur un chemin de halage avec moi, hein, et on va évoquer des sujets qui me sont chers. Ce n'est pas pour rien que je démarre c'est pas un chapitre, mais une première partie sur la langue, voilà, l'importance de la langue et de l'écrit, qui est mon métier. Je vide l'écrit, donc c'est fondamental dans ma vie de tous les jours. Et puis, je vais parler du vieux Paris, de la province, des objets, des personnalités artistiques, voilà. C'est une sorte de cheminement, hein, et c'est pour ça que ce ne sont pas des chroniques qui sont juxtaposées, j'espère. Sinon, mon opération littéraire serait complètement loupée. Qu'il y a quelque chose, un fil, voilà, et que les gens, à la fin, quand ils referment ce livre-là, ils se disent « Ah oui, oui, c'était pas si mal avant, et puis il nous a éclairé. » Parfois, j'essaye aussi de faire un mélange entre des gens connus, on va dire, et des vraiment moins connus ou plus pointus, voilà. Dans les arts, j'essaie de faire de relier des acteurs très populaires, puis des acteurs, je fais le grand écart entre un Jean Carmet et un Charles Denner, vous voyez, entre un Huysmans et un René Fallet, voilà, je fais, parce que j'aime ça aussi.
Changer de focale.
Oui, et puis il y a aussi, je veux pas décevoir évidemment mon lecteur, je veux l'intéresser, l'amuser. J'essaye de l'amuser, ce qui est très difficile. Et ce qui discrédite souvent l'écrivain, c'est-à-dire le ton, c'est pas un ton blagueur, mais il y a un second degré. Voilà, il y a un second degré qui court, qui est très difficile aujourd'hui à manier, hein, le son de second degré. Et pour être reconnu comme un écrivain important, hein, il faut s'attaquer aux sujets lourds, voilà, aux pauses intellectuelles, comme je les appelle. Moi, je refuse complètement ça. Donc, c'est très difficile. J'essaye d'amener de la littérature par un biais qui est assez nouveau, par une personnalité très populaire. Généralement, on va pas faire de la littérature sur Annie Cordy, par exemple. Je prends l'exemple, elle est pas dans le livre, mais elle pourrait y être. Et moi, j'aime ça. Il y a aussi une gageure et aussi une performance un peu artistique, de se dire, tiens, je prends cette personnalité-là, ce chanteur, qui est un peu discrédité par l'intelligentsia, et je vais en faire quelque chose parce qu'il a résonné dans mon cœur particulièrement. Voilà. C'est quand même beaucoup de... Quand je dis une œuvre d'admiration, c'est un retour aussi. Hein. Je remets en lumière des gens qui m'ont nourri.
Bien sûr. Alors, vous prenez des cas, vous me dites, il ne faut pas se fier aux idées reçues. Et donc, vous prenez par exemple le cas de Michel Audiard.
Oui.
Résumé Audiard au Napa Caro, au Gay Paris et au Macro qui sortent des tirades du Littré est une mythologie pour feignasse, dites-vous.
Ouais.
C'est vrai qu'Audiard, voilà, c'est le genre de personnage qu'on croit connaître, comme Arletty, par exemple, et qu'on ne connaît pas si bien que ça. Donc, vous montrez toujours un peu le revers d'une personnalité qu'on croit connaître.
Oui, avec Audiard, c'est le cas. Alors, Audiard, on peut rester, et ça peut m'amuser. Hein. J'aime les tirades d'Audiard, balancées par Blier. Il y a un esprit un peu bistrotier, les malfrats et les flics. Un exercice de style, un peu. C'est un peu convenu. Ça peut faire rire, parce qu'il était extrêmement doué. Mais j'essaye de montrer qu'Audiard, évidemment, c'est pas uniquement ça. Voilà, c'est pas uniquement ça. Et ce qui sous-tend quasiment toute son œuvre, et les gens qui ont lu ses romans le savent très bien, c'est une noirceur, voilà, une noirceur sur la vie, sur le monde, voilà, une misanthropie. C'est quelqu'un qui peut se révéler extrêmement méchant, brutal, hein, et ce qui se ressent dans sa littérature, voilà, c'est pas une littérature qui est grand public, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est pas du tout grand public. Il s'inscrit vraiment dans la tradition célinienne, et c'est même peut-être plus noir que Céline, parce qu'il a été touché dans sa chair. Il faut lire Le Jour, la Nuit et toutes les autres nuits, livre qu'il a écrit après la disparition de son fils. Bon, c'est assez désarmant, voilà. Et donc c'est les deux. Voilà. Je veux dire que les hommes sont ça. C'est à la fois le cinéma commercial, le grand cinéma commercial avec des têtes d'affiches comme Gabin, Belmondo, De Funès, voilà, les grandes stars des films qui ont généré des millions d'entrées. Mais au fond, dans chaque tirade, même marrante, il y a un fond de vérité, il y a un pari très écorché aussi, un pari gris-souris, et le pari de la...
Oui, vous en parlez.
De l'occupe, hein, voilà, il y a quelque chose, et ces blessures-là, on les ressent. Et puis, c'est un grand lettré. Et donc c'est quelqu'un qui a beaucoup lu. C'est peut-être, je fais une aparté, c'est peut-être une la différence. Ces scénaristes, ces dialoguistes de cette époque-là étaient tous de très grands lecteurs, même n'importe quel parolier.
Il y avait Prévert aussi.
Prévert, là, on avait affaire à des gens qui avaient des bibliothèques d'humanistes. Hein. C'était assez. Tout ça, c'était des honnêtes hommes qui avaient lu les grands philosophes, qui avaient lu quasiment toute la littérature. Aujourd'hui, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui a lu Descartes, Montaigne, Céline, Morand, Proust. Audiard en faisait partie. Donc tout ça, on le sent quand même dans sa patte.
Dans sa patte. Alors, autre écrivain, René Fallet. Voilà ce que Fallet, dites-vous, avait la vocation à distraire le travailleur, comme l'auteur intello a donné la migraine. Et c'est vrai que Fallet, lui non plus, on le connaît sans le connaître. La prose de Fallet est explosive. Ce fut peut-être notre dernier moraliste. Sous l'uniforme du garde champêtre, il avançait toujours masqué, une manière de se débarrasser des emmerdeurs. Ce Zorro du Bourbonnais divertit très agréablement le lecteur. C'est une certitude, on se marre même franchement. Ouais. Donc Fallet, voilà, c'est la
Fallet,
soupe aux choux.
Fallet, c'est un peu, on est un peu, voilà, c'est un
c'est écrivain. C'est la fameuse soupe aux choux.
Oui, c'est la soupe aux choux, voilà, donc on est dans les deux. Alors, il y a deux veines chez Fallet. Il y a le romancier populiste qui a très, très, très bien décrit les mondes ouvriers, les cheminots. Et puis, il y a une prose plus acide, plus amère, hein. Sur le délitement du couple. Quand je dis moraliste, c'est réellement un moraliste. Hein. Là, ils appartiennent à la même famille. Hein. Tous ces gens-là appartiennent à peu près à la même famille. C'est pareil, c'est rude. Mmh. Quand je dis amer, c'est vraiment amer. Il y a un goût d'amertume après chaque lecture. Et puis, il y a voilà, les envolées boulevardières, un peu, c'est un peu ça, la campagne, un idiot à Paris, qui est assez, le triporteur, qui sont des films extrêmement, extrêmement drôles, voilà.
Mais il a été un peu, derrière, finalement, occulté, finalement, par la production cinématographique.
Aussi, et puis par le physique, aussi. Ouais, il y a un physique qui le dessert. Il faut le dire, aujourd'hui, il faut un physique d'écrivain pour exister dans les cénacles, hein. Il y a un physique d'écrivain qui en impose, hein, sa stature intellectuelle se reflète dans son visage, hein, et ses poses. Avec Fallet, vous aviez affaire fiche de cheminot, c'est Villeneuve-Saint-Georges, les moustaches, c'est le français moyen. Comment un type comme ça pourrait être un grand auteur? Et c'est un peu dans ce que je vous disais tout à l'heure, le travail de mon livre, c'est de dire que derrière, parfois, l'imagerie populaire, il se peut qu'il y ait des grands auteurs.
Alors, André Ardelet, Thomas Morel. Ardelet, regard bienveillant et bacchante tombante, décidément, ne s'est jamais agité dans les cénacles. Il a traversé les lettres en anonyme avec le Zing comme seul horizon. La chanson et l'accordéon en fond sonore. Et puis aussi les copains Fallet, Simonin, Boudard, Nucera, André Vert ou Robert Giraud. Toute la clique des arpenteurs du pavé, les argotiers du Paris oublié. Vous les adorez, ces argotiers?
Ah, je les aime beaucoup. Alors vous me faites plaisir, parce que je considère André, je le dis ici, à l'antenne de Radio Libertaire, André Ardelet comme un des plus grands écrivains français de la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, c'est un poète et écrivain.
C'est surtout un poète. Quand
c'est un poète, voilà. Alors il est connu pour deux choses. Il est connu pour avoir écrit Chez Temporel, le bal Chez Temporel, la fameuse chanson reprise par Patachou. Voilà. Donc il en a écrit les paroles et derrière Guy Béard a fait l'arrangement. Et puis il est connu sur quasiment la fin de sa vie, la dernière année de sa vie, pour des problèmes judiciaires avec un livre qui s'appelait Lourde Lente. Voilà. Il a eu des problèmes parce que c'était un livre qui était considéré comme érotique. Il a eu le soutien de la plupart des grands écrivains français.
Régine
Desforges. Et puis entre ça, il y a peu de livres. Vous voyez, j'aime souvent les écrivains qui écrivent peu. Voilà, j'ai une grande admiration qui n'a rien à voir avec, mais encore ça a à voir avec quelque chose, par Albert Kosri, donc l'écrivain franco-égyptien, l'écrivain égyptien qui écrit en langue française. Et chez Ardelet, alors chez Ardelet, c'est un poète, c'est vraiment. C'est simple. Il y a très très peu d'écrivains que je relis. Voilà.
Et vous relisez Ardelais.
Ardelais, voilà, le Parc des Archers, même Lourdes-Lente, là, tous ces livres, je trouve que c'est d'une qualité. Voilà, là, quand on parle de langue et d'agencement des mots, voilà, mon Graal, hein, c'est d'atteindre la pureté stylistique d'Ardelais. Elle me, voilà, je l'adore, elle me correspond, voilà, hein, elle me définit, donc j'essaye d'aller vers ça. Et il a eu, bon, une carrière dans les lettres assez moyenne, voilà, on va dire, assez moyenne. Il disait qu'il vendait, je me souviens, il y a justement un de ses livres c'est une lettre qui est en préface. Je crois que c'est André Vert qui fait cette préface-là, où il dit, tu comprends, André, Dédé, mon dernier livre, c'est vendu à 500 ou 600 exemplaires, ou 1000 exemplaires, bon, c'est une catastrophe. Et autour de lui, ses amis le considéraient comme un grand écrivain. Attention, il savait que c'était quelqu'un de très talentueux, mais ça, comme souvent dans la vie, ça ne se répercutait pas dans les ventes en librairie.
Alors, il y a eu Gérard Bourgadier, l'éditeur de L'Arpenteur, qui a fait les trois volumes.
Après, ils ont été réunis. Ardelais. Voilà, Ardelais était. Ardelais, alors il fait partie de ces écrivains qui sont remis au goût du jour parfois. Il suffit d'un papier dans la presse, d'une réédition pour remettre, mais ça ne déclenche jamais foule dans les librairies. Alors cette poésie-là, il y a des inspirations de côté de Prévert. Il y a quelque chose. J'aime beaucoup, il y a une sorte d'alliance avec la nature, il y a beaucoup de choses sur les rivières, les truites, pour ça qu'il y a aussi des connexions avec Fallet,
ouais.
Et puis aussi il parle très bien de la banlieue, voilà, du jardin de Vincennes, voilà. Sa force, c'est que on va presque vers le fantastique. Voilà, Ardelais se promène dans le jardin de Vincennes.
Côté Marcel Aimé, un petit peu.
Un peu de Marcel Aimé. Et la vision d'une. Mais quelque chose qui paraît dérisoire, d'une mode de terre, voilà, d'une touffe d'un bosquet. On part dans quelque chose d'onirique. Alors, c'est très osé comme littérature. Voilà, et qui peut désarçonner un peu le lecteur. On croit partir sur une description, on va dire, bucolique de la banlieue parisienne, la grande ceinture. Et puis on va ailleurs. On va vraiment dans un autre monde. On est quasiment un monde parallèle. Et il revient. Il fait comme ça des allers-retours. Et passé, présent. On ne sait plus si on est dans la fiction ou la réalité. Et j'aimerais toucher ce flou. Voilà, cette onde nostalgique. Si quelqu'un représente l'onde nostalgique, c'est bien André Ardelais.
André Ardelais qui m'évoque, moi, des cartes postales et le temps arrêté. Mais allez savoir pourquoi. On va faire une pause musicale. On va voir ce qui nous arrive en musique. Et nous poursuivons notre route vers Monsieur Nostalgie, Thomas Morales, dans quelques minutes, après la pause.
Madame Nostalgie, depuis le temps que tu radotes et que tu vas de porte en porte répandre ta mélancolie. Madame Nostalgie, avec tes yeux noyés de brume et tes rancœurs et tes rancunes et tes douceâtres litanies. Madame Nostalgie, tu causes de la fragilité des roses. Je n'entends plus ce que tu dis. Madame Nostalgie, depuis le temps que tu m'accables, j'ai envie d'envoyer au diable ton mal d'amour si mal guéri. Madame Nostalgie, tu pleures sur un nom de ville et tu confonds, pauvre imbécile, l'amour et la géographie. Madame Nostalgie, tu rêves, mais tes arbres n'ont plus de sève et tes branches n'ont plus de fruits. Madame Nostalgie, pardonne-moi si j'en ai marre de tes dentelles grises et noires, il fait trop triste par ici. Madame Nostalgie, je veux entendre des orages, respirer des jardins sauvages, voir le soleil et la pluie. Madame Nostalgie, tu pleures, mais ce soir je n'ai plus le cœur de partager tes insomnies. Madame, j'ai envie ce soir d'être infidèle dans les bras d'une belle. qui ressemble à la vie.
C'est un choix de l'invité. C'est Reggiani qui chante Moustaki. C'est tellement mieux chanté que par Moustaki. Ça, c'est mon avis. C'est magnifique. À vous.
Voilà, nous poursuivons notre conversation avec Thomas Morales pour Monsieur Nostalgie. Ça vient de paraître, c'est aujourd'hui même.
Aujourd'hui, oui.
Hein, on est pile poil. Ça sort aujourd'hui même, 8 juin, en librairie. Ça vient de paraître aux éditions Héliopole, avec une 4L en couverture. Comme ça, les auditeurs, s'ils veulent vous lire, pourront voir une petite voiture, ils suivront la route. On suit la route. Alors, Reggiani, pour vous.
Ah ben, Reggiani, le choix de Reggiani. Bon, évidemment, Madame Nostalgie, hein, le titre. Et lui, c'est une nostalgie victimaire. Là. Il refuse cette nostalgie-là. Hein. Il veut s'ouvrir vers la liberté, la jeunesse. Il veut fermer le banc. Hein. Mais j'ai choisi Reggiani aussi parce que dans mon livre, j'aborde pas mal le cinéma.
Oui, cinéma, musique.
Et donc, Reggiani a été à la fois un chanteur, évidemment, et un acteur important.
Très
voilà,
important,
en particulier avec Claude Sauté. Il y a quelques pages sur le réalisateur Claude Sauté. Donc, il fait le pont, justement, entre la chanson et le cinéma, et puis aussi des artistes très complets, voilà, très 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 complets. Il suffit d'entendre à la première intonation, voilà, de voix de Reggiani, ben on est emporté. Voilà. La force de ces acteurs-là ou de ces chanteurs-là, c'est de nous capter, voilà, nous rapter vers leur imaginaire. Et je crois que ça, on l'a un peu perdu. Voilà, il y a quelque chose qu'on a un peu perdu. On est saisi, voilà, et simplement, voilà, l'émotion nous étreint quand on écoute la voix de Reggiani, mais quand on peut voir Lino Ventura ou des choses, on se dit ah ouais, quand même.
La première phrase, la première note, c'est important pour vous lorsque vous écrivez, Thomas Morales ?
Oui, j'essaye. Alors ça, c'est mon métier de journaliste, hein, qui me l'a appris à soigner l'attaque, hein, d'un papier, hein, d'un article. Donc je continue à... C'est les bases, à mon avis. Voilà, c'est les bases d'un bon article. C'est une bonne attaque, une chute. Et puis une fluidité, je rajouterais, voilà, une fluidité dans le texte, et toujours de ne pas perdre le lecteur, voilà, que le lecteur soit sur le vif, voilà.
J'essaie toujours. Vous y pensez à votre lecteur ?
Oui, alors j'y pense, ça m'embêterait qu'il s'ennuie en lecteur. Ça, j'ai la hantise. Je suis un auteur qui a la hantise que le lecteur, mais j'essaye pas de trouver des trucs. Voilà, c'est pas, comme disent les Américains, c'est pas du tout un page turner. Hein. C'est pas là, il y a pas un suspense, quelque chose qui va. Non, moi j'essaye de l'attirer par la langue. Ils sont intrigués. Parfois, ils sont intrigués. Ils me disent, mais ah oui, mais cet adjectif là. Voilà,
par désembardé.
Oui. Il y a. C'est pour ça que je dis l'étape ultime est probablement la poésie. Peut-être qu'un jour, vous me verrez poète.
En tous les cas, la prose poétique, ce qu'on appelle la prose poétique. Alors, il n'y a pas que de la nostalgie comme ça, j'allais dire béate, heureuse. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des attaques aussi, par exemple, pour le milieu éditorial, par exemple. Vous écrivez « Tous les enfumages sont autorisés sans risquer un procès pour épandage abusif. L'acheteur a compris le manège. Il rechigne aujourd'hui à dépenser 18 euros pour un roman falsifié. Il n'a plus envie d'être le réceptacle de tant de compromissions. Il tient à son petit confort de lecture et à sa dignité. » Voilà. Et après, je crois que vous poursuivez, qu'on déverse tant d'ignominie sur lui en toute impunité, etc. Mais c'est vrai que vous dénoncez un peu, finalement, votre amour pour la nostalgie, c'est parce que c'est un retour, ce que vous aimez, c'est l'authentique. C'est,
oui, et à une certaine tenue.
À une règle, voilà, du jeu aussi.
Voilà, il y a une tenue, c'est pas une tenue, la tenue et l'allure, c'est pas honteux aujourd'hui de vouloir des textes qui soient tenus. Le lecteur n'est pas le déversoir, hein, d'une autofiction, par exemple.
Voilà.
Alors, je dis ça et Blondin est un des premiers à faire de l'autofiction. Hein, Monsieur Jadis, c'est de l'autofiction.
Oui, même quand il fait le Tour de France.
Bien sûr, c'est toujours de l'autofiction. Mais aujourd'hui, On n'est pas auteur parce qu'on a vécu un drame personnel, hein, où on a été victime. Voilà. Il y a quelque chose de... qui s'est emparé, on va dire peut-être de l'émotion. Hein. C'est vrai dans l'actualité, souvent l'émotion prend le pas sur la raison, mais dans la littérature aussi. Mais sauf que la littérature, ça ne ment pas. Il y a un texte, et il ne suffit pas d'avoir vécu quelque chose de dramatique dans sa chair pour que ça devienne un grand livre ou un grand film. Mmh. Ça peut. Parfois, ça peut, bien sûr. Mais j'attends, et en tant que lecteur, j'attends avant tout d'un écrivain qu'il m'apporte sa langue. Voilà. Je veux découvrir son territoire. Son territoire, c'est sa langue. Son ADN, c'est sa langue. C'est sa façon d'écrire. Et force est de constater que depuis pas mal d'années, chez beaucoup de maisons d'édition, à chaque rentrée, c'est bien en septembre qu'en janvier, il y a une certaine standardisation de la langue. Elle est vraie dans la production.
C'est une langue pasteurisée ?
Oui, bien sûr, il y a un peu de ça.
Sous cellophane ?
Il y a quelque chose un peu... alors peut-être que c'est voilà. Voulu, les éditeurs ouais. Le veulent, hein, ils veulent prendre peu de risques. Et puis aussi, ils ont peu d'estime pour les lecteurs. Hein, leur proposer parfois une qualité qui est voilà littérairement médiocre.
Ouais. Voilà ce que vous écrivez. Le critique ne sait plus comment faire convenablement son travail. On déplore sa subjectivité et son sens du copinage. À la fois vendu au système et payé pour dire sa vérité, il est perdant à tous les coups. Je rappellerai que le critique littéraire n'est pas assermenté par l'État. Voilà, il n'a pas une obligation de résultat. Donc c'est vrai que même la critique n'existe plus finalement.
Non.
Vous avez, avant, il y avait quand même, moi je me souviens, Angelo Rinaldi, bon, il y a eu
Matignon,
il y a eu quand même
des, sûr,
Mathieu Gallet qui était ouais. redoutable à
bien
l'époque,
sûr, oui.
Il y a très longtemps. Mais maintenant, on n'ose quasiment plus
non,
faire de la... À part peut-être l'émission Le Masque et la Plume.
Oui, parfois, mais de la critique littéraire. Alors, moi, je ne me considère pas du tout comme un critique littéraire. Hein. Je mets chroniqueur, je suis un chroniqueur littéraire parce que je n'attaque pas réellement la structure du texte, je donne mon impression, voilà, mon impression générale. Et effectivement, la critique aujourd'hui, elle se limite à encenser des valeurs marchandes qui sont déjà très bien établies ou à faire le compte-rendu, le résumé, la quatrième de couverture. Et ça va guère plus loin.
Ouais.
Il faut dire aussi que les pages consacrées aux livres dans les grands magazines français, hein, et même dans la presse quotidienne, sont quand même relativement limitées. Il y a peu de cahiers littéraires. Moi qui suis un papivore, qui lit du papier, qui mange du papier matin, midi et soir, vous aviez encore il y a quelques années dans la presse quotidienne régionale des critiques littéraires, voilà, qui tenaient leur feuilleton littéraire, je sais pas, je pense à Sud-Ouest, il y avait Gérard Guégan, on a un camarade encore dans le Courrier Picard qui s'appelle Philippe Lacoche qui tient une rubrique littéraire, mais ils sont devenus très très rares. La Montagne, longtemps il y a eu une critique littéraire récurrente, hein, elle est presque supprimée.
Ouais, puis vous aviez autrefois Jean-Jacques Brochier par exemple au magazine littéraire qui lui n'avait pas, enfin. Il critiquait vraiment, quoi. C'est ouais. Ça y allait. Voilà ce que vous écrivez. Alors, on a aussi à vous lire l'impression que, par exemple, l'écriture, il faut être un peu jusqu'au boutiste, il faut y aller. Hein. Dans chaque écrivain sommeille un fanatique, un croyant ayant perdu la foi, un dictateur préférant l'encre aux armes, un homme perdu, sans aucune attache. Écrire, c'est exagérer, salir, transformer, expulser. Faire péter toutes les convenances et garder la France sans talent ni oreille musicale, cette opération peut vite s'avérer vaine.
Mais
il faut quand même
oui,
voilà,
faut,
avoir
bah,
du tempérament.
Je
ne
veux pas reprendre un peu, paraphraser Céline, mais il dit mettre ses tripes un peu sur la table, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Quel intérêt de faire ce métier-là ? L'acte d'écrire est gratuit quasiment aujourd'hui. Donc, c'est rare de faire fortune avec du livre. On en est tous les deux des exemples. Les élus dans le monde littéraire se comptent sur se comptent en quelques dizaines de personnes qui vivent de leurs droits d'auteur. L'ensemble du système, on va dire, éditorial... est fait par des gens de manière quasiment bénévole. Hein. Mmh. Bon, alors donc, quand on fait quelque chose de bénévole, parce que c'est ça, écrire un livre, c'est faire quelque chose, c'est une offrande, un acte gratuit, autant y mettre ce qu'on est, hein, y aller totalement. Mais encore faut-il trouver un éditeur qui accepte de vous publier. Et vous voyez, je remercie, j'en profite d'être au micro de Radio Libertaire pour remercier Héliopole qui d'une certaine façon prend un peu un risque parce que ces ouvrages qui sont hybrides pourraient difficilement voir le jour ailleurs. Voilà, on n'est pas dans l'essai pur. Voilà, je fais pas un essai sur les Trente Glorieuses. Mmh. Ce n'est pas un roman avec des personnages sur les Trente Glorieuses. C'est un entre-deux. Voilà, c'est donc ça demande. C'est pas que ça demande un effort, mais une prise de risque de l'éditeur de dire tiens, ben finalement, ce sont des textes. Et je dis souvent, comment tu peux résumer ça? C'est des mots. Voilà. Vous voyez, je vais pas aller plus loin. C'est des mots. Soit on est sensible à ma façon d'aborder un thème, que ce soit Alexandre Vialat ou la Renault 4L. Si on n'est pas sensible, bon ben on reste étranger, voilà, on reste à côté.
Alors il y a aussi la province, puisque beaucoup de Parisiens sont, il y a peu de Parisiens purs, mais il y en a beaucoup sont des anciens provinciaux. Et vous laissez la place à la province. Aujourd'hui, en vieillissant, nous sommes émus par les bancs de sable d'une Loire capricieuse, ce chemin de halage tant de fois emprunté durant notre jeunesse sans provoquer un quelconque émoi vicinal, nous désarçonne comme un poème de Rimbaud. Donc, comme un poème de Rimbaud dans le creux de la nuit. Que nous est-il arrivé? Avons-nous perdu la tête? Pourquoi ce sentimentalisme provincial nous terrasse-t-il dorénavant? Donc, vous parlez un peu, voilà, vous parlez de la campagne, par exemple, vous dites la campagne n'est pas binaire, ne la compartimentez pas en paradis pour résidence secondaire. Voilà, donc vous offrez, je parlais tout à l'heure de focus, de zoom, un éclairage, voilà, cherchais le mot, un éclairage sur cette France qui peut être périphérique, puisqu'on parlait d'Ardelais, hein, Vincennes, les Guinguettes, et puis la France des provinces, et ça vous en parlez très bien. Moi,
c'est vraiment un de mes terrains de prédilection, là, la province, les départements, mes chers départements, et les régions ne me parlent pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire une région. Moi, je suis un homme d'un département. Voilà, un département, c'est une centaine de kilomètres. Je suis né dans le Cher, je suis un Berruyais, né à Bourges, mais Berrichon, dans la province du Berry. Donc, mon univers mental. Toute ma jeunesse, hein, et surtout j'ai vécu toute ma jeunesse dans un village de moins de 2000 habitants, mon univers, c'est les limites de mon département. Voilà, donc je tiens beaucoup à exprimer, et il a fallu quelques années, voilà, parce que quand on est jeune à la campagne, dans la désertification rurale, comme disent les technocrates, bon, la vie est plus difficile. Vous voyez, le lycée est à 30 km, la première faculté, elle est à 100 ou 150 km. Ça nécessite pour... évidemment, ce sont des bassins où il n'y a pas d'emploi, hein, du tout. Donc, vous êtes obligé de vous expatrier dans une grande ville et d'oublier cette province-là. Et puis, j'arrive bientôt proche de 50 ans. Et depuis déjà quelques années, je me rends compte que j'y suis attaché finalement viscéralement à cette province-là. Et ce que je dis dès le début du texte, je suis passé des millions de fois dans ma jeunesse, dans mon adolescence, sur les bords de la Loire, et ça n'évoquait rien chez moi. Complètement rien. C'était vraiment... je trouvais le temps très long. Hein, et en plus, je suis un fils unique. Vous voyez, les journées sont immenses, immensément vides. Les vacances, n'en parlons pas. 2 mois, 3 mois, c'est des longs tunnels. Donc on s'ennuie forcément, on a envie de quitter cette campagne-là et puis de faire sa vie ailleurs. Et aujourd'hui, à bientôt 50 ans, je rends compte que ça m'a façonné aussi. Voilà.
D'où le Tour de France.
Le Tour de France.
Ce roman de juillet nerveux et diabolique, tendu et haletant, non dépourvu de certaines longueurs en pleine, malgré des vitesses répréhensibles, accélère le palpitant. Donc le Tour de France crée... réveille.
Oui, là, il réveille quelque chose. Il réveille d'abord parce que j'aime la France, voilà. Hein, c'est pas, j'aime la géographie française, hein, donc j'aime la campagne, j'aime le littoral français. Donc le Tour de France, qui mieux que le Tour de France pour montrer les paysages du pays. Et puis en plus, j'y mets des souvenirs personnels. Voilà, ces après-midi quand vous êtes adolescent, en plein milieu du Berry, hein, en mois de juillet, avec un cagnard qui vous tombe dessus. Vous voyez la chaleur. Hein, le goudron qui fond, hein, sur une route, vous connaissez le Bourbonnais, hein, ça va être long, l'après-midi va être très très long. et on se réunissait autour de la télévision pour voir l'étape du Tour de France avec avec mon grand-père. C'était quelque chose tout de suite de fantastique. Lui, évidemment, on était dans les années 80, donc je sais pas, c'était Fignon, Hinault, Lemon, c'était ça les coureurs. Mais lui avait la culture des plus anciens, donc il me parlait de coureurs dont j'avais des bobés, des photocopies, voilà. Donc c'est un partage aussi, voilà, des moments de partage. Sur le moment, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. C'est après, je me suis dit finalement, c'était précieux.
Comme Roland Garros. Mais on va faire une pause musicale. Voilà, on va voir ce qui nous attend en musique.
Alors maintenant, c'est le choix de Valère. C'est Vincent Delerme qui a quelque chose à voir avec Fanny Ardant. Mais ça, ça me regarde pas.
On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. Nous parlons de Monsieur Nostalgie de Thomas Morales. Ça vient tout juste de paraître aux éditions Héliopole. Thomas Morales, alors c'est vrai, il y a beaucoup de choses. J'avais plein de fiches autour de moi. J'avais énormément à dire sur votre livre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je citais des phrases. Par exemple, vous dites « Je déplore cet esprit de sérieux qui a tout ravagé sur son passage, terrassant nos espaces privés. Le second degré est mort au début des années 2000, emportant avec lui une nouvelle vague de censeurs frénétiques. » Ou alors, par exemple, autre phrase, j'essaye un peu, parce que donner des petites touches pour comprendre un peu l'état d'esprit de votre livre. J'ai fait un rêve, Paris avait retrouvé sa couleur naturelle, le gris souris lui va si bien au teint, le pavé lui c'est les travaux, c'est bon, voilà, écoutez, bon, oui, voilà, oui. On est dans une, vous essayez, alors je parle de désinvolture, par exemple là on vient d'écouter Fanny Ardant et moi de Lerme, mais c'est vrai, cette note de désinvolture, il y a beaucoup sur le cinéma. Pour vous, le cinéma, voilà.
Il est constitutif, voilà, de ma
personne. Vous êtes un cinéphile.
Oui, alors un cinéphile, j'ai une chronique sur la cinéphilie, hein, qui démarre, on va dire, le chapitre sur le cinéma. Je ne me considère pas réellement comme un cinéphile, mais comme quand même un adorateur des salles obscures. Hein, mais je connais bien le cinéma français, on va dire. Voilà, c'est pour ça que souvent, dans ce livre-là, je me suis arrêté uniquement sur les acteurs et les actrices français ou les grands réalisateurs français des années 60-70 plutôt. Là.
Voilà, alors on va faire une étape cinéma, une pause cinéma. Par exemple, pour Blier.
Bernard Blier.
Ouais. De sa lointaine naissance à Buenos Aires, Blier avait gardé la virtuosité du danseur argentin, une violence contenue qui fascine toujours autant. Ah, oui. Là, tout est dit en une phrase.
C'est un danseur argentin et... Audiard le disait bien, le seul capable de restituer ces dialogues à la virgule près, à l'intonation, à l'intention, je dirais même près, c'est Blier. Blier, c'est un danseur, hein. C'est un danseur étoile. Et pourtant, quand on le voit, on dit mastoc.
C'est un cube.
Oui, un peu. Il a longtemps, en fin de carrière, il a plutôt joué les hommes installés, les ministres ou les chefs d'entreprise, alors qu'au début de sa carrière, il jouait plutôt des ouvriers. Mais il a un physique, voilà, physique qui impose. Et pourtant, c'est d'une grande légèreté. C'est un virtuose. Un virtuose du dialogue. Bon, il était à l'école de Jouvet, mais dans la diction aussi. Voilà. Il est capable de restituer le débit d'Audiard. Il y a un flow, comme diraient les rappeurs, il y a un flow, voilà, et ils scandent merveilleusement bien le Audiard.
Alors, Lino Ventura, dites-vous, alors je pense que c'est lui, parce que j'ai des fiches, mais alors il ne faut pas que je m'embrouille. Il porte tous les signes rédempteurs des enfances pauvres et des métiers de force. Il ne veut pas faire chic ou précieux, m'as-tu vu ou artiste. Après, vous dites, il a des principes dans une profession instable et sujette aux modes changeantes. Il ne plie pas devant les injonctions béates et assassines de ses contemporains. Il ne transige pas, il ne louvoie pas. Il trace une ligne de vie droite et attentive aux autres, fidèle à ses valeurs, quand ce mot ne faisait pas rire dans les assemblées déconstruites. Les gens de cinéma l'aimaient tellement qu'ils voulaient le muer en un autre.
Oui, c'est vrai, ils ont tellement voulu. Alors que s'il y avait un mot, c'est une sorte de vérité. Il y a une sincérité qui est naturelle. Là, on a affaire à des acteurs naturellement doués et à chaque fois il ne joue pas. J'ai revu beaucoup d'interviews, voilà. Il est toujours alors les mots sont comptés, hein, c'est pas un bavard, hein, Ventura, mais chaque mot est pesé. Il parle pas à tort et à travers, voilà. C'est aussi ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces acteurs-là.
Alors, sorte d'économie de moyens.
Oui, ça pleurniche pas et il va quand même au fond des choses. Il dit les choses comme il y a quelque chose de direct avec Ventura. Et puis derrière cette masse, ce rock, il y a une sensibilité évidemment.
Bien sûr.
Où il est le meilleur, c'est dans la sensibilité, un regard, quelque chose. Vous voyez quand il.
Regard blié aussi.
Blié aussi. Mais il y a quelque chose. C'est vrai, mais il y a quelque chose
chez Lino Ventura,
chez Ventura qui a une corde sensible, vous voyez, quand il s'exprime. D'abord, c'est quelqu'un qui. Et cette génération d'acteurs s'exprimait très peu sur leur vie privée, mais il a parlé quelquefois de ses enfants et de sa fille, Ventura. Et avec très peu de mots, voilà, une économie, on a compris ce qu'il vivait, voilà, cette enfance particulière, l'amour pour sa jeune fille, il y a quelque chose tout de suite qui... On est tellement habitué, c'est peut-être ça aussi, c'est qu'on est tellement habitué à une société fausse. C'est-à-dire tout est faux, tout est communication, hein, tout est baratin, et élément de langage. Et donc quand quelqu'un parle vrai... On n'a plus l'habitude, on se dit ah, mais c'est ça comme ça, et donc ça rehausse et il nous élève d'une certaine façon à force d'avoir vu d'acteurs, je parle plutôt là même d'hommes politiques, des gens qui s'expriment pour ne rien dire et qui ne touchent pas le fond, voilà, ils touchent toujours le fond de l'âme, voilà. Ventura.
Alors un acteur que j'ai un peu redécouvert grâce à vous, c'est Jean Carmet. Alors vous citez une citation, je ne sais plus de qui elle est. Carmé était un type extrêmement cultivé, aux antipodes des Français moyens, un peu bas de plafond, qu'on lui faisait jouer dans les seconds rôles depuis des années. Je ne sais pas qui disait ça de lui, mais c'est vrai qu'en fait, on découvre, grâce à vous, vous dites, ce second rôle volait souvent la vedette à l'acteur principal par une onde nostalgique qui saignait ses gestes et sa voix, son charme déstructuré et sa folie sourcilleuse. Voilà, vous décrivez.
Il y a quelque chose.
Mais que c'était quelqu'un, en fait, qui était. Voilà, qui avait une culture.
Bien sûr.
Il y a une cause qu'on ne voit pas.
Ouais, il y a une poésie chez Carmé. Voilà, s'il faut donner des mots pour chacun de ces acteurs-là, il y a la poésie de Carmé et puis quelque chose aussi de très fantasque. Voilà. Et pas de chiquet. Voilà, c'est. Vous voyez, il avait l'habitude. C'est quelqu'un de très étrange, c'est un acteur, on pourrait plus imaginer, avec les réseaux sociaux, avec la médiatisation, les acteurs peuvent même plus se déplacer dans la rue, des acteurs de ce niveau-là, ils seraient tout de suite harcelés, photographiés, instagrammés, lui pouvait passer sa vie dans les gares, c'était un homme qui aimait les gares, il parlait avec des gens. Il pouvait même rencontrer quelqu'un à la gare, un inconnu, hein, et faire un bout de chemin avec lui, et le type l'invitait à prendre l'apéro, à dîner, voire à coucher chez lui. Ça paraît, on croirait un film, là, on croirait raconter une histoire, hein, et pourtant c'était la vie de Carmé. Tout ça, ce fantasque-là, mais je trouve qu'il est prodigieux, hein, Carmé. Et pareil. Très sous-estimé. Un jour, et je me souviens, je ne sais plus si c'était pour les 20 ans de l'anniversaire de sa mort, j'avais été étonné qu'il n'y ait aucun papier dans la presse, c'était passé comme ça, et pourtant, il suffit de revoir, et souvent il était second rôle, donc les gens qui ont été second rôle très très longtemps, et ils nous ont marqué, je pense, un type comme Claude Pieplus, ou des choses comme ça.
Oui, c'est voilà. Vrai. Vous parlez aussi de Philippe Noiret, du corps encombrant de Philippe Noiret. Ouais. Noiret était un bouliste non honteux, un azuré, anisé en bob éponge et en slip de bain, un plagiste encombré par ce corps molletonné où l'absence d'abdominaux était en soi la preuve d'un esprit clairvoyant. Et vous dites, certaines carrières ont sombré pour moins que ça, le t-shirt reste une épreuve hautement plus redoutable qu'un examen prostatique. Il faut être bien sûr de son talent pour enfiler un tel habit destructeur pour l'ego et le sex appeal. C'est vrai que Noiret...
On imagine Noiret, et ce qui est le cas, comme un dandy du cinéma, avec des costumes sur mesure, des chaussures sur mesure, c'est vraiment le grand élégant, c'est un des premiers acteurs hommes qui a fait la une de Elle. Mais je prends deux exemples, deux films importants, sa première apparition, donc La Pointe Courte, un film d'Agnès Varda, où il est en t-shirt, et un film des années 70 avec Annie Girardot qui s'appelle La Vieille Fille.
Ouais, ça,
là aussi, il porte le bob et le t-shirt, et je dis qu'il est... On a dans l'imaginaire vraiment l'élégant. Hein, et il a pourtant démarré sa carrière. Il est boudiné. Il a un physique, lui aussi, assez imposant. Hein, rondouillard, c'est un type costaud, mais on ne peut pas dire qu'il a une plaquette d'abdominaux. Hein, et il a réussi à faire de ce physique-là, qui est assez compliqué, je parle aussi pour Marielle, d'en faire une force. Voilà, on ne le voit plus. Le physique, finalement, qu'il soit gros...
Oui, mais il avait une voix.
Il y a une voix, mais il y a quelque chose, il faut...
Un phrasé.
Il faut passer, vous voyez, qu'il a démarré au TNP avec Jean Villard,
ouais.
Et à l'époque, bon, il joue avec Gérard Philippe, hein, il est dans la troupe à peu près en même temps que Gérard Philippe, donc on est à une époque où le jeune premier, c'est l'incarnation même du jeune premier, Gérard Philippe, il a, je dirais, un physique dissonant, hein, et il en a fait une force. Voilà, certains acteurs font, et il n'y a pas que ça, il y a le talent évidemment. Ouais. Aussi.
Maurice René passe pour un éclaireur, la mort lui sied à merveille. C'est vrai que Maurice René...
Il meurt tout le temps.
Ouais.
C'est vraiment j'ai mon camarade Jean-Pierre Montal qui avait fait il y a quelques années aux éditions Pierre-Guillaume de Roux un portrait, petit essai sur Maurice René avait, je ne me souviens plus, comptabilisé le nombre de films où il mourait avant la fin. Alors là aussi, ça c'est vraiment l'acteur des années 70. C'est presque c'est une référence différent des... Parce qu'il n'a pas eu la carrière d'un Belmondo ou d'un Delon. Voilà, on est...
Moi, je préfère de loin Maurice René à Delon.
On est à un niveau de notoriété, même s'il est important un petit peu en dessous. Et quelque chose de... Voilà, il y a un regard, voilà, il y a une intensité aussi chez Maurice René.
Il y a des scènes mémorables, il y a des scènes iconiques avec Maurice René, personnage. Alors, Romy Schneider, vous mettez... Là, c'est intéressant parce que vous montrez aussi qu'on peut mettre du temps, comme pour une œuvre littéraire, à apprécier un acteur ou une actrice. Et vous, c'est pas trop votre truc, Romy Schneider. Et, c'est la et après, vous analysez un peu et vous dites c'est l'actrice intranquille par nature, inconfortable par essence. Ouais. Il y avait, vous détectez une sorte de malaise.
Oui, alors il y avait le malaise. Au départ, cette impudeur, je dirais que ce qui me gênait dans les films de Romy, il y a une forme d'impudeur presque orchestrée. Je le percevais comme ça au départ. Et finalement, force de regarder, elle n'était pas orchestrée, elle était inhérente à sa personne, voilà. Et j'ai découvert la vérité. Cette fragilité-là, qui était un peu trop apparente, trop ostentatoire, on va dire, au départ, me gênait, voilà. Elle m'empêchait de rentrer complètement. Et avec les années, elle me déplaît plus. Voilà, et je peux goûter au jeu de Romy et je suis plus proche d'elle, mais ça c'est avec 20 ans. Il y a 20 ans, je n'aurais pas dit la même chose.
Alors, j'étais surprise qu'il n'y ait pas Delphine Seyrig, je l'ai pas vu. Ça,
non, elle n'y est pas, mais j'ai
déjà merveilleuse actrice.
J'ai déjà parlé, mais là on est dans les Delphine Seyrig, on est dans les
La voix,
mais il y a des
actrices. Merveilleuse présence.
Dominique Sanda. Allez, là on est dans c'est des actrices comme ça, un peu là des personnalités.
Je préfère Delphine Seyrig. Ouais. Catherine Deneuve, moi j'aime beaucoup de Catherine Deneuve. D'ailleurs, elle n'a jamais été, ne sera sous le joug d'un mentor, encore moins d'un homme. Catherine n'est la marionnette de personne. Son inflexibilité est le signe d'espoir dans une société du spectacle si prompte à se lamenter et à quémander un peu d'amour. Voilà, vous dites Catherine Deneuve ne dégouline pas de bons sentiments et de prudence assassine. C'est vrai qu'il y a une indépendance chez Catherine
Deneuve. Très, très indépendante.
C'est une femme moderne.
Elle peut dire sa vérité, elle peut oser. Voilà, il y a des choses. Alors, on va dire que son statut de star lui permet, mais il y a pareil, Catherine Deneuve, on ne rentre pas dans son intimité comme ça. Hein. Ce qui nous étonne beaucoup quand on voit, et pourtant elle a été exposée, quelle autre actrice française a été autant exposée que Catherine Deneuve? Et pourtant, j'aime beaucoup moi les actrices qui sont rebelles par nature, qui se ferment. Voilà. On commence à essayer de faire leur portrait psychologique dans une interview télé, et elle ferme à double tour. Elle tient bon. Voilà. Il y a quelque chose de... C'est un rock, un peu à l'Aventura. C'est un rock et elle donne ce qu'elle a envie de donner. Avec parfois un peu de morgue, un peu de mauvaise foi qui n'est pas désagréable. Elle n'est pas lisse. Voilà.
Catherine, c'est un récif dans l'océan des platitudes actuelles. Quand on l'interroge au détour d'une interview sur la disparition de sa sœur, elle accuse le coup et répond avec une émotion contenue qui honore le téléspectateur. Cette manière d'être impose le respect. C'est vrai qu'au sujet de sa sœur,
François Orléac,
ce qui a été un drame.
Bien sûr, mais là on voit que j'ai vu... Les intervieweurs se méfient de Catherine Deneuve, donc il y a des terrains minés, hein, ils y vont pas allègrement, ils lui posent pas toutes les questions, on respecte quand même la star. Mais ça m'est arrivé de voir quelques reportages où on essayait un petit peu, et là, alors là, elle se refermait, ça se voyait tout de suite, hein, elle en disait le minimum, et ce minimum-là, elle faisait pas la promotion.
Bah ouais. En fait, vous aimez les minimalistes.
J'aime.
Quoique, parce que quand vous parlez, moi j'aime beaucoup Georges Descrières. Ah bah oui, mais attendez, on l'aime bien.
Oui,
on l'aimait bien.
Bien.
Bon,
oui.
Pourquoi avons-nous tant aimé Georges Descrières? Pour son insolence amusée, sa voix de cardinal endimanché, ses foulards en soie, sa caricature pleinement assumée et son obsolence programmée dans un monde qui ne comprend plus le second degré et ne reconnaît que les instructions martiales. Donc, ce personnage, surtout dans Arsène Lupin, là, c'était...
Là, on est des personnages exagérés, débridés, totalement débridés.
Mais c'était sympathique.
Oui. Il y a quelque chose, voilà, que vous avez complètement assumé. Hein, il est un peu une sorte de Jean-Paul Belmondo avant, voilà. On a oublié qu'il a été le doyen du théâtre français. Et on l'a vu. Moi, j'ai connu Georges Descrières par ses feuilletons télévisés. C'est là le grand public ma génération, on l'a vu dans Arsène Lupin et puis après dans une série des années 70-80 qui moi j'aime beaucoup qui est kitschissime, qui s'appelle Sam et Sally.
Sam et Sally, ouais.
Avec deux actrices, Corinne Le Poulain et...
qu'importe.
Et voilà, je ne me souviens plus de la deuxième actrice. Et alors là, c'est vraiment... C'est en échappement libre, vous voyez. C'est la série complètement en échappement libre et il accepte la caricature du Playboy, mais donc c'est tellement caricaturé que le Playboy, ça dégonfle complètement l'ego.
Après, bon, là, on a parlé un peu du cinéma, des acteurs. Topor, j'ai bien aimé. Ouais. Il y a Topor et Saint-Pé. Alors, Topor nourrissait notre désespoir par d'étranges signaux, dites-vous, des illustrations sombres et inquiétantes, le trait hachuré qui engloutit l'esprit par une noirceur salvatrice et un auteur au regard obsédant qui se rit du désastre en marche. Un large sourire à la Joker, mélange de timidité et de colère froide, illuminait un visage dont on se souvenait longtemps. C'est vrai que Topor, il mérite d'être.
Ah oui, moi j'aime beaucoup mettre des illustrateurs. Ouais. Des dessinateurs dans mes livres. Alors là, il y en a plusieurs. Il y a Saint-Pé, il y a Topor, voilà. Il y a Pierre Le Tan. Je parle aussi de Ted Benoît, qui est un dessinateur de bande dessinée disparu. Et Topor, on l'a connu, moi, je l'ai connu dans des émissions de jeunesse, voilà, à la télévision. Il est intervenu dans des émissions de jeunesse quand j'étais vraiment un gamin. Et il avait une façon très étonnante. Il ne prenait pas les enfants pour de jeunes imbéciles. Il y avait quelque chose. Il pouvait parler gravement. Je le raccroche un peu à Roald Dahl. Voilà.
Ah oui.
Il y a quelque chose. C'était des œuvres réservées à la jeunesse, mais d'une grande profondeur. Voilà. On pouvait, et c'était très osé. Aujourd'hui, je crois qu'on ne ferait plus ça. Voilà. On pouvait parler de la mort. Il y avait quelque chose de sombre, ce qu'étaient les illustrations, hein, les dessins de Topor, quelque chose de fracassé. Et puis derrière, un second degré, une distance.
Puis même ses écrits, d'ailleurs.
Sur le métier, ce détachement. Ouais. Voilà, là, on est. C'est pour moi, souvent, c'est la marque des grands artistes. Plus ils ont une distance avec les choses, plus je me dis, son œuvre va m'intéresser.
Vous dites, par exemple, vous citez une citation de Topor, je crois, le dessin n'est pas un art, c'est un jeu, répondait-il à Jacques Chancel, désarçonné dans Radioscopie en 1976. Et vous dites, il enfonçait le clou en affirmant, c'est un sous-métier. Il s'était représenté en 1969 à la télévision suisse comme un pauvre petit personnage de lettres.
Ouais.
Pauvre petit personnage de lettres. Et Saint-Pé, alors ça, vous l'aimez bien, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, la nostalgie.
On est plus classique, hein, chez Saint-Pé, on passe côté bourgeois. Là, on était chez les possédés, je dirais. Il y a un dessin possédé chez Topor. Là, on est plus conventionnel, peut-être.
Oui, plus conventionnel. Alors, pour les personnages de Saint-Pé, vous dites qu'ils sont inoffensifs, ils travaillent en surface, au contraire, des dessins de Saint-Pé qui ne relevaient à la fois de la rêverie douce et des sentiments contrastés. Les fêlures silencieuses avaient chez ce taiseux le don de nous cueillir. Sa modestie était probablement une forme de distance. Donc, Saint-Pé, c'est la poésie aussi.
Oui, oui, la poésie. Alors là, il y a beaucoup de scènes qui se passent de couple dans la campagne française, dans les brasseries parisiennes, beaucoup de choses. Il y a une imagerie, on pourrait dire, Saint-Pé, c'est l'image aussi de Claude Sauté. Alors, à la différence d'un Topor qui est plus radical, et même ils n'avaient pas la même, là, ils ont deux appréciations de leur métier assez différentes, voilà. Saint-Pé ne voulait pas être considéré comme un dessinateur de bande dessinée. Lui, il était vraiment un illustrateur. Il se mettait dans la lignée de grands dessinateurs comme Chaval. Il avait conscience, quand même, malgré tout, que ses petits dessins étaient plus que des petits dessins. Et Topor, lui, jouait un peu par provocation en disant, nous, on est un peu comme Claire Bretéché. Claire Bretéché faisait souvent ça.
Ah oui, oui.
En disant, bon, excellent, non, on fait un petit dessin, je fais un petit dessin. Qu'est-ce que vous faites, Claire Bretéché? Oh, un petit dessin par semaine. Hein. Je trouve que ça, c'est la marque aussi. Il y a de l'humour, il y a un petit peu de provocation parce qu'il n'y croit pas réellement. Je pense que les artistes sont quand même persuadés de leur talent. Hein, donc, mais j'aime entendre ça. Voilà, je trouve que c'est une politesse vis-à-vis de leur lecteur. Je trouve que c'est élégant. Voilà. Il y avait des gens qui étaient élégants.
Mais peut-être qu'il y a toujours des gens.
Voilà, on peut en
trouver.
Pourquoi
pas ? On va faire une pause musicale. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme surprise, mais nous allons écouter.
Quand le jour se lève sur Sing Sing, on ne s'inquiète pas pour le temps. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau à Sing Sing, on sortira pas pour autant. Vaut mieux laisser au clou la clé des champs, ou sinon ça crache des pruneaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson colle à la peau.
le jour se lève sur Sing Sing. Par contre on s'inquiète pour le temps, le temps qui reste à tirer à Sing Sing. Y'a de quoi se faire des cheveux blancs. Il paraît que c'est chouette d'avoir 20 ans. Oui, mais pas derrière des barreaux. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson dure un peu trop. Quand le jour se lève sur Sing Sing et que c'est le dimanche qu'on attend, on va voir l'orchestre de Sing Sing. Il faut dire qu'il swing méchamment. Le dernier batteur avait le rythme dansant. Sur la chaise il fit trois petits sauts. Oh Sing Sing, oh Sing Sing, ta chanson chauffe un peu trop. Ouais.
C'est Nougaro avec l'orchestre de Maurice Vander sur une musique de Nata Derley.
Ah, ouais, ça y est, nous reprenons notre conversation, Thomas Morales, autour de votre livre Monsieur Nostalgique, qui vient de paraître aux éditions Héliopole. Nougaro, le rythme.
Oui, le rythme, voilà, c'est, j'ai choisi Nougaro pour la percussion. Et je pense qu'il y a, on peut le mettre en parallèle avec l'écriture, là, avec le style. J'aime aller vers, voilà, des terres un peu de jazz libre, voilà, dans l'écriture. Voilà, on tente des choses. Voilà, c'est assez compliqué de tenter des choses parce que, vous ne devez pas perdre votre lecteur. Moi, c'est pas un essai où les gens vont apprendre. Hein,
non, ce sont des promenades, voilà, des
pèlerins. Ils
ne
vont pas apprendre. Ouais. Alors, évidemment, quelques éléments des biographies sont cités, mais c'est très anecdotique. Hein, ils ne vont pas apprendre la vie de Bernard Blier ou les secrets de Bernard Blier. C'est une promenade très personnelle sur quelqu'un. Et je trouve que l'écriture libre, assez rythmée, assez frappante, presque, oui, swingante, colle bien d'abord avec le format de la chronique. On peut pas se lancer dans la chronique sur 3-4 feuillets, on peut pas se lancer sur des phrases de 20 lignes, hein. On ne peut pas être proustien, on ne peut pas imposer un rythme long, voilà. On doit tout de suite aller vers quelque chose de plus, voilà, de matraquer un peu. Il y a une sorte de staccato, je dis souvent, j'utilise souvent ce mot-là. Et c'est très difficile, on peut pas non plus trop forcer sur cette rythmique là sinon on perd le lecteur. Donc c'est un mariage entre, voilà, une percussion, voilà, y a quelques, et puis un peu de fluidité quand même, un peu de, il faut de l'huile dans les rouages pour que ça imprègne un peu dans le cerveau du lecteur.
Alors, sur Saint-Germain-des-Prés, par exemple, voilà ce que vous écrivez. La bohème se recycle désormais dans les boutiques de luxe. Le prêt-à-porter a raflé les meilleurs emplacements de la rive gauche, par exemple. Vous regrettez la disparition aussi du papier à Paris. La disparition du papier imprimé au cœur des villes est un processus qui ne date pas d'hier. Ça, vous remarquez un peu le changement des villes, des grandes villes. Alors, on pourrait parler, mais je ne sais pas si on en aura le temps, de Lucien Baudard et d'Alphonse Baudard, voilà.
Deux écrivains. Alors je parle de le reporter Lucien Baudard, et alors on connaît ses reportages à l'autre bout du monde, mais il a écrit un livre dans les années 70 qui s'appelle Les plaisirs de l'Hexagone. Où il raconte quelques événements, un match de rugby dans le sud-ouest, et puis sa ville de naissance, d'Anceny, qui change. On est au début, on va dire, de la mondialisation, voilà, au début de...
C'est des pères pour vous. Hein,
oui,
c'est...
voilà, et là, il y a quelque chose, je trouve, très intéressant. Et Boudard, j'aime l'argot pratiqué par Boudard. Voilà, ouais. J'aime ça. Alors, je sais que certains de mes confrères apprécient peu Boudard, sa langue parfois un peu trop verte. Parce qu'il y a toujours aussi un second degré, il y a toujours l'œil rieur de Boudard. Il raconte des choses terribles, hein. sur l'hôpital, sur ses années de prison, hein, mais il ne va jamais dans la noirceur, où Céline va labourer ce terrain-là, ce sillon-là. Boudard, non. Il y a toujours une pirouette. Et puis on apprend aussi beaucoup de choses. Boudard a quand même été à la fois il a été incarcéré quelques années, mais ça a été également un grand résistant. Hein. Il a été jusqu'au nid d'aigle, hein, avec l'armée avec Delattre. Donc il a une vie passionnante. Voilà,
passionnant.
C'est un écrivain passionnant. Voilà.
Alors, toujours sur le Paris, pour les bouquinistes par exemple, j'ai passé ma jeunesse, la tête enfouie, dans les caisses à l'air libre de Saint-Michel jusqu'au quai de la Tournelle. Gibert, on va tous chez Gibert. Ouais. J'arpentais le vaisseau amiral Gibert-Joseph du boulevard, ma gymnastique sportive et intellectuelle de la semaine. C'est le livre qui choisit son lecteur. On furette sans idée préconçue, sans schéma bien établi, tout le contraire de notre société, du prêt à penser, du kit prêt à l'emploi. Donc c'est vrai, ça a failli disparaître, hein, d'ailleurs.
Oui, ça a failli,
c'est terrible.
Alors,
hein,
même si on dit souvent, paraît-il, ce que je lis dans la presse, que les librairies indépendantes se crée, hein, il y a des créations, beaucoup de créations de librairies indépendantes partout en France. À Paris, on a vu parfois que le tissu des libraires c'est un peu restreint. Et puis dans les librairies modernes vendant du livre neuf, on peut dire que même les librairies indépendantes vendent quand même majoritairement les mêmes livres. Hein. Il n'y a pas, heureusement à Paris, on avait les bouquinistes et les livres d'occasion. Chez Gibert, on peut passer l'après-midi. Voilà.
Oui,
et ce que je dis, et je crois vrai, c'est pas vous qui cherchez le livre, c'est le livre qui vous happe. Voilà. C'est un livre c'est lui qui a décidé que vous l'achèteriez.
Est-ce qu'on peut dire que la chronique est un sport de combat dans ces cas-là, Thomas Morales? Vous écrivez, dans la chronique comme dans d'autres disciplines athlétiques, il y a les parvenus et les maîtres, les suiveurs et les sprinteurs. Car vous ne vous y trompez pas, la chronique est un sport de haut niveau. Il faut aller vite. On parlait du rythme tout à l'heure, donc il faut aller à l'essentiel.
Oui, j'ai toujours fait ce parallèle-là entre la chronique et le sport de haut niveau. C'est une performance. Voilà, la chronique, il faut l'envisager comme une performance. Et en plus, comme vous faites une succession de chroniques, vous ne pouvez pas avoir une baisse de rythme. Il faut toujours donner au lecteur à peu près la même intensité, le même imaginaire. Il faut pas, ça demande un entraînement soutenu et régulier. L'effort est régulier et il doit être assez intense parce qu'il est, il est court. Ça demande pas mal d'efforts. Ce qui ne veut pas dire, attention, que le roman ne demande pas d'efforts. Le roman peut demander une construction avec les personnages.
Oui.
Mais c'est pour ça que je n'aime plus le roman. Voilà, je vais faire un aveu aujourd'hui.
N'aime plus le roman.
Je ne lis plus le roman. Voilà, et pourtant j'en ai beaucoup lu, mais je ne lis plus le roman parce que je ne supporte plus en tant que lecteur les longueurs. Voilà. Les longueurs m'indisposent. Voilà, je ne peux plus. Et les longueurs sont obligatoires dans le tissu narratif d'un roman. C'est obligatoire. Un roman ne peut pas être soutenu de la première à la 300e page. Donc, il y a du flottement parfois dans un roman.
Ah, bah oui.
Il y a des baisses de rythme. Ces baisses de rythme sont inacceptables. Voilà. Et donc, je peine à rentrer dans un roman. Il faudrait un roman, et rare, là on parle de chef-d'œuvre de la littérature, où il y a un rythme assez soutenu. Voilà. On garde le pied appuyé sur la pédale d'accélérateur de la première à la dernière page.
C'est plutôt rare.
C'est très rare. C'est très rare. C'est pour ça que je ne m'y colle pas au roman. J'ai trop peur de l'exercice.
Voilà. Bon. Les plages aussi. Alors les plages, vous dites, nos plages ressemblent aujourd'hui à des quais de métro aux heures de pointe, chacun portant en bandoulière sa mauvaise humeur et ses vêtements trop couvrants.
Bon, oui, voilà, entre autres, ça c'est pour les plages. Il y a des choses un peu marrantes, voilà, sur les plages.
Et comme on a parlé de Nougaro et du rythme, j'ai eu l'impression, parce qu'il y a mes humeurs, mon Paris, etc. On n'a pas parlé de la Parisienne, hein, les lecteurs découvriront. À la fin, vous terminez par un nous collectif, c'est les blousons noirs, je crois.
Hein.
Et on tombe encore dans le rythme. On ne voulait pas en croquer, ne pas rester en rade, nous passions comme des sauvageons, des fêlés, des asociaux, des sociopathes, des victimes ou des bourreaux. Les sociologues et les psychologues ont fait fortune sur notre dos. Tous les vieux ne comprennent rien à l'agonie des langueurs banlieusardes et au plaisir douloureux de se cogner. Voilà. Donc,
oui,
vous revenez un peu sur ces... Oui. Alors, moi, les blousons noirs, pour moi, c'est quelque chose de très ancien, finalement.
C'était très ancien. J'ai fait quelque chose...
Alors, là, c'est marrant,
c'est une prise de risque.
Moi, oui.
C'est une prise de risque.
C'était voulu. Là, c'est une sacrée prise de risque.
C'est voulu. C'est-à-dire de terminer. Voilà, on part sur la langue, sur Paris, le vieux Paris, la province, la cinéphilie, ma brocante,
oui,
mon humeur.
Oui,
voilà.
Ouais.
Et je termine par un texte.
Collectif, c'est comme un chœur.
Oui, 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 oui. Qui n'a. Alors là.
C'est quand même un risque.
Oui, c'est un risque. On pourrait terminer sur une conclusion un peu banale. Et j'ai voulu faire ce texte-là sur les blousons noirs parce que j'ai quand même toujours le goût du peuple. Voilà. Ce qui pour un est d'une jeunesse. Moi, je suis pas du tout d'une jeunesse en difficulté. Hein. Je suis une jeunesse rurale qui n'a pas eu à souffrir. Mais j'ai toujours été attiré par les jeunesses défaillantes. Voilà. Et les blousons noirs sont ça. Alors, on a voulu en faire un mouvement extraordinaire. Ce sont des gamins en rupture de banc, voilà, qui font des conneries, des fils de prolo. Et donc, j'ai voulu faire un texte un peu poétique et rythmé sur la baston, voilà, la baston du samedi soir, et qui dit quelque chose aussi sur, ils existent toujours, hein. Ces jeunes, entre guillemets, sauvageons, évidemment, ils existent toujours. Mais
non, c'est plutôt suite à capuche.
Enfin, ouais, voilà, c'est autre
c'est
chose.
Pas la, c'est pas blouson noir, c'est vrai que c'était très noté, très connoté pour
j'ai
moi.
J'ai voulu, mais... voilà, une jeunesse, et que la jeunesse, c'est pour ça que c'est. Le texte n'est pas une.
Une jeunesse périphérique, vous voulez
dire. Oui, voilà, qu'elle existe aussi. La jeunesse, ce n'est pas uniquement ma jeunesse, une jeunesse relativement protégée et cultivée. Hein. Je voulais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaye toujours de mettre des choses qui sont ancrées un peu dans la réalité et dans la dureté de la réalité. C'était ça aussi. Donc, ce n'est pas une nostalgie formidable. Hein. Quand je dis c'était mieux avant, par Foucade, hein. Un peu bravache, je dis c'était mieux avant. Le dernier texte prouve que c'était pas si bien que ça avant. Donc ça, je veux un peu déstabiliser le lecteur. Le lecteur, il est parti avec ses idées en tête. Allez, on va enfiler voilà les grands acteurs, les grands auteurs oubliés. Et je le cueille à la fin par quelque chose qui n'a à peu près, qui a quelque chose à voir, mais sur une autre vision de la société, un peu oubliée. C'est aussi ma nostalgie. Voilà, ma nostalgie, c'est aussi la nostalgie des blousons noirs, voilà, des gamins d'immigrés qui doivent faire leur vie en France, des difficultés de ne pas aller aux études longtemps. Là, on est dans les années 50, 60, donc de prendre un boulot du service militaire, voilà.
Vous écrivez, dans ce donc chapitre blouson noir, nous n'avons pas connu les maquis, on nous appelait les blousons noirs, et je ne dirai jamais que 17 ans est le plus bel âge de la vie. Je crois que c'est la dernière phrase de votre livre. C'est important, cette dernière phrase.
Oui. Oui.
Je ne dirai jamais que 17 ans est le plus bel âge de la vie. Donc, ça contredit
bien sûr,
le
voilà,
titre.
Bien sûr. C'est pour ça que je veux. C'est pas que je veux brouiller l'esprit de mon lecteur, pas du tout ça. Mais. Si mon lecteur s'attend à un catalogue classique des années 60 ou 70, je dirais un catalogue folklorique, il se trompe. Voilà. C'est autre chose. C'est autre chose.
Mais est-ce que c'est à chaque fois, par les blousons noirs, ma première réaction, j'ai oublié.
Ouais.
Est-ce que vous ne nous confrontez pas finalement à nos différents oublis?
Oui. Alors là, on a parlé de quelques écrivains, mais c'est vrai, on connaît un écrivain un peu oublié qui s'appelle Georges Conchon. Voilà. C'est aussi le plaisir. Écrire, c'est aussi, vous avez la possibilité.
Donner une seconde vie.
Voilà, d'être lu par quelques personnes. Hein, et si, en refermant ce livre-là, les gens se disent, tiens, mais Georges Conchon, je l'ai connu, ses romans ont été adaptés au cinéma, mais c'était qui? Il a eu le prix Goncourt. Tiens, si je retrouvais un de ses romans en poche dans la boîte d'un bouquiniste, voilà. On est aussi un peu. C'est pour ça que je raye pas le passé. Je suis un intermédiaire, voilà. J'essaye de transmettre un peu cet héritage culturel. Et on est peu nombreux à essayer de faire vivre cette France-là. Voilà.
Vos admirations, point de vue, les écrivains, on en a parlé. Le fil conducteur du livre, là, c'est ce fil tenu de votre histoire.
Oui,
de
je dirais, il y a à la fois, peut-être, j'y tiens, on est écrivain ou auteur, je peine à dire le mot écrivain, et encore pas artiste. Voilà. L'artiste, je déteste quand les gens se présentent comme des artistes. Je dirais que c'est quand même le style, c'est l'écriture. Si on achète un de mes livres, c'est que. on est peut-être un peu sensible à ma façon d'écrire. Et puis quelque chose d'autre, c'est peut-être ce petit détachement. Voilà. Il y a quelque chose, je ne vais pas jusqu'au second degré parce que je ne pratique pas le second degré tout le temps, mais il y a un détachement un peu triste et rieur. Voilà. J'arrive pas tellement à faire, c'est un peu ça, parce que c'est ma nature. C'est à la fois, je regrette ces choses-là, je m'en amuse, je ne vais pas créer un parti politique demain pour qu'on revienne aux années 60, hein. Ce n'est pas du tout mon objectif. C'est cet entre-deux, voilà. Le terme le plus exact serait une certaine mélancolie, mais je ne vais pas jusqu'à la mélancolie. Parce que
on la ressent pas.
Allez, il y a quelque chose. Parce que je veux toujours un peu quand même amuser mon lecteur, lui dire bon. Ouais, c'était beau, c'était parfois dur, c'est pas très grave, voilà, la vie, il y a une sorte de fatalité, voilà, mais une fatalité largement acceptée et j'espère belle dans l'écriture, voilà.
Qu'est-ce qui déclenche votre désir d'écriture? Qu'est-ce qui va déclencher l'écriture d'un texte, Thomas Morales?
Souvent,
un souvenir?
Oui, ça peut être un souvenir, ça peut être un détail, parfois avec... voilà, c'est de revoir une interview, un reportage, un documentaire. Je me dis, mais finalement, un petit détail. Et puis, je déroule le fil de la mélancolie, des souvenirs. Et puis, c'est aussi le plaisir de égoïste, parce que les auteurs sont de grands égoïstes, voilà, hein, de balancer une belle phrase. Voilà. Il y a d'objectif tout simple, c'est-à-dire que de balancer un maximum de bonnes phrases, bien rythmées, bien équilibrées, avec du jus, avec si possible de l'esprit et du fond. Voilà. Albert Cossery disait ça. Je peux pas supporter de d'écrire une phrase vaine qui ne servirait à rien. Voilà. Alors c'est compliqué de toucher dans le mille à chaque fois. C'est un peu ça. C'est pour ça que je me limite à la chronique. Je peux pas être sur une plus longue distance.
Bah, pourtant vous avez écrit un roman policier.
Oui, j'ai écrit un peu
en binôme,
mais j'en avais écrit un auparavant, il y a quelques années, avec un détective un peu en s'inspirant un peu de Léo Mallet, Nestor Burma. Mais je crois que j'ai trouvé ma...
Votre vitesse de croisière ?
Oui, et mon rythme. Je suis fait pour... Il y a beaucoup d'auteurs qui se lamentent, qui voudraient être soit des philosophes, des essayistes, soit des grands romanciers. Il faut savoir... moi, j'ai trouvé ma distance. Il faut trouver ma distance et on se connaît à partir d'un certain âge. C'est là où je crois que je suis le plus pertinent.
Est-ce que votre définition de l'écriture, est-ce qu'une écriture... une phrase, c'est comme un livre, elle doit vous emporter, vous emmener en voyage. Est-ce que vous aimez être surpris par votre écriture?
Oui, j'aime l'association des mots, voilà, et une association parfois contre nature. Et voilà, c'est ça que j'aime bien faire sonner, voilà, sonner des mots, des adjectifs qui ne sont pas forcément, qui ne vont pas forcément avec la personne. Je joue comme ça toujours. Il faut être un peu joueur. Voilà, il faut être un peu joueur quand on écrit. Voilà, il faut tenter des choses.
Est-ce que ce livre vous a changé, Monsieur Nostalgie? Est-ce que ça, par rapport au précédent livre, ou est-ce que non?
Je trouve qu'il. Moi, vous voyez, je creuse mon sillon de la nostalgie depuis pas mal d'années. J'ai une vingtaine de livres au compteur. Mais celui-là, je me dis peut-être. Vous voyez, c'est peut-être la fin d'un cycle. Il condense à peu près. Ma pensée, c'est grand, hein. je finis ma pensée, mais il condense un peu ça et ma façon d'écrire. Si quelqu'un voulait découvrir l'auteur Thomas Morales, il aurait un résumé assez...
Donc il n'y aura plus de livre sur la nostalgie.
J'aimerais aller ailleurs, voilà. J'aimerais peut-être même, alors là, ouvrir un peu plus les vannes du personnel et du moi et du jeu, voilà, d'aller sur quelque chose.
On le sent,
voilà, c'est pour ça, c'est les débuts, j'y vais timidement.
Parce que le dernier livre était un livre de nécrologie, où vous définissiez comme un nécrologue de papier. Et là, on sent que vous tournez vers votre propre histoire.
Oui, il y a une propre histoire. Peut-être, voilà, ce sera peut-être une histoire très, voilà, plus personnelle. Donc, je m'approcherai du roman. Voilà.
Eh bien, on vous suivra, comme on dit.
Je vous remercie, en tout cas.
Merci Thomas Morales pour Monsieur Nostalgie. Ça vient de paraître aux éditions Héliopole. Bah, écoutez, si vous aimez la campagne, le Race Campagne, les lectures buissonnières, c'est pour vous. J'en profite pour remercier Flo Descailloux qui nous accompagne et qui, je suis sûre, va nous réserver le mot de la fin en musique. Et voilà. Florence.
Eh bien, oui, le mot de la fin en musique, eh ben, c'est mon choix. On a chacun son tour un choix aujourd'hui. C'est Alain Leprest, chanté par Nilda Fernandez, « Donne-moi de mes nouvelles ». Pour moi, c'est très nostalgique.
Sans t'avouer que je me manque, donne-moi de mes nouvelles. Dis-moi dans quel port se planque la barque de ma cervelle. Me crois-je encore guitariste? Comment vis-je, comment vais-je? Ai-je toujours le front triste d'un professeur de solfège? As-tu rendu au voisin la page du Télérama dont il avait tant besoin, cause du Dalaï Lama? Vis-tu toujours avec moi? Home am I, I'm not so well, mais de ma santé je m'en fous. C'est surtout de mes nouvelles près de toi dont je suis fou. Ma chienne Lou est-elle morte? Ai-je arrêté de fumer? Combien de rosiers avortent avant d'avoir parfumé? Est-ce que mon ombre chinoise à l'angle du cinéma a enfin payé l'ardoise du restaurateur chinois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de mes nouvelles et ma cinglette à carreaux. Fait-elle toujours des merveilles au championnat de tarot? Connaît-on encore Leprest? Fait-il encore des chansons? Les mots vont, les écrits restent souvent sous les paillassons. C'est quel mois de quelle semaine? De quelle saison, de quel mois longes-tu toujours la scène au bras de mon frère siamois? Vis-tu toujours avec moi? Donne-moi de tes nouvelles, file-moi le boléro du téléphone à Ravel et de mon dernier bistrot. Comment vis-je, comment boite mes pauvres pieds d'haricot? Et suis-je encore mis en boîte avec mon drapeau coco? On s'est promis tant de plages au bord des panoramas. Es-tu toujours du voyage avant mon prochain commun? Viens-tu toujours avec moi? Viens-tu toujours avec moi?